Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'hypoparathyroïdie et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Lucile Figuère. Docteur Figuère, bonjour.
Bonjour.
Docteur Figuère, vous êtes néphrologue au sein du service de néphrologie du CHU de Nantes. Et vous êtes également coordonnatrice du centre de référence des maladies rares, du métabolisme du calcium et du phosphate sous l'égide de la filière OSCAR. Alors aujourd'hui, docteur Figuère, nous allons évoquer la prise en charge de l'hypoparathyroïdie. Et pour débuter notre entretien, quels sont les enjeux de cette prise en charge ?
Alors, les enjeux du traitement de l'hypoparathyroïdie, ça va être en fait d'essayer d'avoir la meilleure qualité de vie possible, tout en évitant les complications, qu'elles soient induites par l'hypoparathyroïdie ou même par ces traitements. C'est une maladie qui n'est pas extrêmement grave, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de patients, ou très peu pas à ma connaissance, qui vont mourir de cette maladie, mais par contre qui ne vont pas non plus pouvoir guérir. C'est-à-dire qu'en 2023, on n'a pas de traitement curatif encore de cette pathologie. C'est une maladie qui peut avoir des sévérités différentes avec des patients qui peuvent être très peu symptomatiques et stables, que personnellement je vais suivre une fois par an, et puis des patients qui vont avoir des atteintes plus sévères, très instables et qui vont avoir besoin de contacts médicaux réguliers et de suivi très régulier.
Et concrètement, comment est-ce qu'on prend en charge cette maladie rare qu'est l'hypoparathyroïdie ?
Alors, il va falloir trouver un équilibre entre les cibles biologiques et la qualité de vie. Et il faut savoir que c'est une maladie qui va être associée à de nombreux symptômes d'intensité variable. Sur le plan médical, nous, on va vraiment regarder la calcémie, la phosphatémie, la magnésémie, le capital en vitamine D, et puis le calcium dans l'urine et la fonction rénale. On va viser des cibles qui vont être un peu différentes de la population générale, parce que si on maintient des calcémies trop hautes chez ces patients, ils vont faire des complications. On va donc avoir des cibles de calcémie un peu plus bas en particulier, mais pas trop bas non plus pour éviter les complications, en particulier les crises de tétanie qui peuvent être très symptomatiques et très graves pour les patients. On va pouvoir, en termes de traitement, leur donner de la vitamine D native, alors celle qu'on connaît tous, qu'on va donner en pédiatrie notamment, ou sur l'hiver pour certains patients, qui va permettre de maintenir un bon capital en vitamine D, ce qui est primordial dans cette pathologie. On peut leur donner de la vitamine D active, qui va aider ces patients à mieux absorber le calcium en particulier. Et puis parfois, ils ont besoin de magnésium parce qu'ils ont une hypomagnésémie, c'est-à-dire un magnésium qui est trop bas dans leur sang. Et ça peut les aider au niveau des symptômes en particulier. Malheureusement, le magnésium est censé être remboursé dans cette indication, tout comme d'autres, mais on a encore des difficultés à faire rembourser le magnésium pour ces patients. Sur le plan diététique, il va falloir que ces patients aient une alimentation assez stable et notamment des apports calciques qui vont être réguliers et suffisants pour éviter l'hypocalcémie. Et s'ils sont insuffisants ou que le patient n'aime pas les produits laitiers, par exemple, on va les donner sous forme médicamenteuse, comme par exemple du carbonate de calcium. On va leur demander d'éviter de manger trop salé puisque ça va favoriser la fuite de calcium dans l'urine et des complications type calculs rénaux, voire même une hypocalcémie qui peut aussi apparaître. Et puis parfois, quand le phosphate dans le sang est élevé, on va essayer de leur dire de limiter un peu également le phosphate alimentaire et notamment tous les produits ultra transformés. On va leur dire aussi de bien s'hydrater, puisque s'ils ont un calcium qui est élevé dans l'urine, ils peuvent faire des calculs dans les reins et avoir aussi des calcifications dans les reins qu'on appelle la néphrocalcinose. Et en dehors de tous ces traitements donc médicamenteux et de la prise en charge diététique, eh bien, il va falloir prendre en charge le reste, c'est-à-dire ce qui a causé l'hypoparathyroïdie, et donc souvent c'est lié à un effet indésirable chirurgical. Alors ce n'est pas une faute médicale, c'est malheureusement des complications qui peuvent arriver, qui sont inhérentes à la chirurgie thyroïdienne. Donc on va prendre en charge leur hypothyroïdie qu'ils ont souvent, et puis des atteintes associées si par contre l'hypoparathyroïdie est génétique. On a des patients qui ont une hypoparathyroïdie avec une surdité par exemple. Et puis tout ce retentissement d'avoir une maladie chronique avec des symptômes, des suivis médicaux, des douleurs parfois chroniques, il va y avoir toute une prise en charge psychosociale qui est absolument nécessaire et qui justifie que ces patients puissent être passés en affection longue durée, en ALD, pour cette pathologie.
Et qu'en est-il des formes sévères, docteur Figuère ?
Alors dans mon expérience, à mon sens, il y a trois types de formes sévères. Soit les patients sont très symptomatiques, avec parfois des symptômes qui peuvent mettre leur vie en danger, comme le cas de la tétanie ou du spasme laryngé. Soit c'est sur le plan un peu biologique où ils ont des hypocalcémies profondes et même en augmentant les médicaments, on n'arrive pas à contrôler cette hypocalcémie. Soit ils ont des complications d'organes, en particulier des calculs rénaux récidivants ou des néphrocalcinoses ou des calcifications articulaires. À mon sens, il y a ces trois types de formes sévères dont il faut tenir compte dans la prise en charge de ces traitements. Alors pour ces patients, je pense que c'est vraiment important d'être suivi par un médecin expérimenté et en tout cas de se rapprocher de la filière OSCAR. Et en particulier, la filière OSCAR organise une réunion de concertation pluridisciplinaire, des réunions sur un rythme mensuel où on va pouvoir discuter de ces patients et donc on va pouvoir adapter la prise en charge même pour des médecins qui auraient un peu moins l'habitude. Donc c'est vraiment important de se rapprocher des filières. Ces médecins vont pouvoir en particulier vérifier si on a pu tout adapter pour ces patients. Parfois, on a oublié de vérifier le magnésium dans l'urine ou alors on n'a pas regardé le capital en vitamine D, des petites choses qui peuvent des fois améliorer effectivement les choses. Pour les formes qu'on n'arrive pas à contrôler sur le plan médicamenteux, on peut proposer de la parathormone de synthèse qui peut être intéressante parce qu'elle va améliorer les symptômes, mais malheureusement, elle ne guérit pas l'hypoparathyroïdie et elle implique aussi des contraintes supplémentaires. Et on a des nouveaux traitements aussi qui sont à l'étude pour espérer avoir des traitements plus physiologiques, plus proches du manque de parathormone qu'ont les patients pour permettre effectivement d'améliorer les symptômes, en particulier dans les formes sévères. Et à noter qu'en 2023, on a la chance aussi d'avoir un nouveau traitement qui est à l'étude, qui va agir également sur le récepteur de la parathormone. Et à noter enfin que pour les formes sévères, il y a une carte d'urgence qui est en train d'être distribuée par la filière Oscar, que le patient peut garder dans son portefeuille, communiquer aussi à ses proches pour qu'en cas d'hypocalcémie sévère, il puisse être pris en charge rapidement et que les coordonnées de son médecin référent puissent être transmises aux structures compétentes.
Et quelle est la place de l'implication des patients eux-mêmes dans leur prise en charge ?
Alors dans cette maladie, elle est absolument primordiale. Il faut absolument qu'il y ait une collaboration et une confiance avec les soignants. Il faut quand même noter que les deux tiers des patients ont une hypoparathyroïdie suite à un effet indésirable d'une chirurgie, avec parfois une errance médicale pendant des années, c'est-à-dire qu'ils ont des traitements, du calcium, de la vitamine D, mais on leur a jamais dit qu'ils avaient une hypoparathyroïdie et on n'a jamais mis en lien leurs symptômes avec la maladie. On leur a même parfois dit que c'était un peu dans leur tête et qu'il fallait aller voir un psychologue. D'accord ? Donc quand on a ces patients-là qui ont eu des années de souffrance, il faut absolument rétablir une collaboration et une confiance et faire ainsi accepter aux patients que malheureusement on ne peut pas guérir de la maladie et qu'il va falloir effectivement s'accoutumer et essayer de trouver la meilleure solution pour que la qualité de vie soit la meilleure. On travaille beaucoup avec l'association Hypoparathyroïdisme France, qui sont très actifs dans l'hypoparathyroïdie, qui vont être très aidants pour faire également des groupes de soutien, pour échanger les expériences, pouvoir aussi avoir cette résilience vis-à-vis de cette maladie chronique qui est invisible, et qui vont permettre aussi de nous adresser directement des patients qui n'auraient pas de référent médical proche de leur domicile. Avec cette association, nous avons mis en place un programme d'éducation thérapeutique nationale au format virtuel. On a des patients de toute la France, même des DOM-TOM, qui permet effectivement de faire des ateliers en visio de 5 à 6 personnes, toutes atteintes d'hypoparathyroïdie, et de pouvoir leur expliciter quels sont les symptômes, quels sont les traitements, et de faire des situations pratico-pratiques pour qu'ils ou elles apprennent à maîtriser un peu mieux leur maladie, pour que leur qualité de vie soit meilleure également. Et nous avons aussi pu travailler sur une vidéo avec une patiente, que je remercie encore chaleureusement, qui s'appelle « Je vis avec une hypoparathyroïdie », qui en 3 minutes va pouvoir expliquer ce qu'est la maladie et qui a beaucoup servi à certains patients qui nous ont fait des retours positifs pour expliquer la maladie à leur employeur, à leur médecin, etc., pour pouvoir aussi adapter les choses. La collaboration, effectivement, patient-soignant, elle est vraiment primordiale, notamment dans l'acceptation du fait qu'il n'y a pas de traitement curatif à l'heure actuelle et qu'il y a parfois effectivement une cause iatrogène et que ce sont des patients qui ont quand même eu souvent une grande errance diagnostique et donc il faut qu'on puisse participer ensemble et que le patient puisse aussi entendre que parfois on n'a pas non plus la réponse à toutes leurs questions mais qu'on va essayer surtout de faire en sorte que leur qualité de vie soit la meilleure.
Et pour conclure, docteur Figuère, quel suivi proposer à ces patients touchés par une hypoparathyroïdie ?
Alors, il faut absolument qu'ils soient suivis effectivement au long cours, puisqu'il risque d'y avoir des complications si on ne les surveille pas, notamment des hypercalcémies ou à l'inverse des hypocalcémies. Et malheureusement, ça passe aussi par beaucoup de biologie, de prise de sang au laboratoire. En fait, il faut imaginer que c'est comme un patient qui serait diabétique, mais qui aurait normalement à la maison un petit capteur pour mesurer sa glycémie. Et bien, les patients avec hypoparathyroïdie, ils ont plein de symptômes, ils ne savent pas forcément quelle est leur calcémie. Et ils ont des symptômes d'hypo ou d'hypercalcémie et des symptômes d'hypoparathyroïdie. Et c'est très dur de faire la part des choses. Et donc, il faut souvent passer par aller faire une prise de sang au laboratoire. Donc, ça impacte également aussi leur quotidien. On va viser donc une calcémie un peu plus basse que la population générale pour éviter effectivement qu'il y ait trop de calcium dans l'urine ou notamment d'autres calcifications articulaires par exemple, surveiller la fonction rénale et en pratique, le protocole national de diagnostic et de soins recommande des bilans tous les 6 mois minimum où on va regarder le capital en vitamine D, les urines des 24 heures. Après, j'ai des patients sévères qui vont faire des prises de sang tous les 15 jours ou tous les mois en fonction de leurs symptômes. Sur le plan des suivis, on va leur proposer également d'être suivis par un ophtalmologue, puisqu'ils vont avoir un surrisque de cataracte. Donc, on va vérifier ça surtout à des âges où, normalement, il n'y a pas trop ce surrisque. Donc, moi, je le mentionne sur le courrier adressé à l'ophtalmo. Et puis, on va leur dire de voir leur dentiste chaque année, puisqu'il peut y avoir des atteintes dentaires souvent peu sévères, mais quand même des patients qui n'avaient aucun problème dentaire et qui, après le diagnostic d'hypoparathyroïdie post-opératoire en particulier, ont une fragilité dentaire et donc ont besoin d'avoir un suivi régulier. Et je pense que dans ces maladies à impact, qui vont drastiquement parfois modifier la qualité de vie et les capacités du patient à faire du sport, à sortir, à avoir une activité professionnelle. On a des patients parfois qui sont en invalidité. Hein. Je pense que c'est très important aussi d'avoir un suivi psychologique associé, puisqu'il y a forcément un impact aussi psychologique qui va aggraver aussi tous ces symptômes. Par rapport à ce suivi, il y a donc les recommandations dans le protocole national de diagnostic et de soins que le patient peut voir et communiquer à son médecin traitant. Il y a des informations aussi sur le site de la filière OSCA ou sur l'association Hypoparathyroïdisme France. Et nous avons également fait des webinaires enregistrés et une journée de l'hypoparathyroïdie 2023 où on reprend aussi les différents éléments du suivi médical qu'on peut proposer à ces patients.
Eh bien, merci mille fois, Dr Figuère, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est l'hypoparathyroïdie. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.